Et tout de suite, Le Voyage Radiophonique, un documentaire sonore, francophone, indépendant.
Connaissez-vous la chaleur d'un feu de charbonnier au cœur de la forêt? La caresse du vent sous les ailes d'un gypaète barbu? Ou bien encore la morsure de l'eau sur la pierre calcaire? Dans le Vercors, les éléments parlent. Ils façonnent les paysages, nourrissent les histoires et sculptent les vies. Je suis Alice Roy, je vous emmène au cœur du Vercors, là où les éléments nous inspirent.
Le feu, c'est l'énergie. C'est la passion, le feu, c'est chaud.
Le feu, celui qui façonne et transforme.
Toute l'histoire, on va dire, de l'homme a une relation avec le feu. On est quand même sous de la matière en lave, en feu.
Avec Sébastien Perroux, artiste charbonnier, et Sabine Campredon, chargée de production pour l'association Culture Ailleurs et Charbonnière.
Le charbonnier, en compte, il a le ciel comme fenêtre et la forêt comme maison, et un roi n'est pas plus à l'aise.
Le feu, cette force redoutable et fascinante, façonne la terre depuis des millénaires. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Trièves, à la rencontre d'un savoir-faire ancestral, celui des charbonniers. Ces artisans du feu ont longtemps transformé le bois en charbon, perpétuant un métier discret, essentiel, aujourd'hui presque oublié. Je retrouve Sébastien chez lui, dans un petit hameau perché à 1000 mètres d'altitude. Tracté par Derek, Sébastien rejoint la charbonnière en calèche.
C'est un transport dans un autre monde. Donc il va nous amener vers le végétal, puisqu'en fait, on va aller le transformer. Charbonner, c'est transformer la matière végétale en charbon. Et le charbon, c'est du carbone. Être charbonnier, c'est le faire. Et c'est le vivre.
Vous êtes combien de charbonniers ici?
Alors là, sur le coup, je suis le seul. Mais j'estime que dans toute l'aventure des charbonniers, on est plusieurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, on n'est pas tout seul. Sabine, qu'on croisera tout à l'heure, qui est charbonnière, mais qui est sur la partie aussi administrative, etc. Donc les gens qui viennent parfois charbonner avec moi aussi, et donc qui deviennent charbonniers, ou des jeunes que j'initie au charbon, qui deviennent charbonniers puis petit à petit, parce que c'est pas évident de décider de faire sa vie charbonnier. Quoi. Donc voilà, on arrive sur le site. C'est une grande forêt où on voit qu'il y a une grosse activité humaine, hein, puisque là il y a une grande clairière. Voilà. Là. Donc nous voilà arrivés à la charbonnière, dans cette clairière qui a été. Qui doit faire environ, je sais pas, 50 mètres de diamètre, qui est plutôt nouvelle, hein, puisqu'il y a une exploitation de bois là tout l'hiver. Donc on est dans une forêt de pins. Avec des tas de terre, de branches, et puis mon installation là, avec le four à pyrolyse, la roulotte de chantier qui sont de couleur noire, et avec un toit en tôle plat. Voilà, donc là on voit du bois qui est rangé dessous, l'échelle, la remorque qui aussi me sert de transport du bois.
Là, vous chargez le four tel un boulanger. Donc on voit une cinquantaine de branches d'un diamètre de 10 cm.
Qui sont sur 2 mètres de long, donc qui sont bien rangées. Et on prend le temps aussi d'optimiser la place, etc.
Le four, là, c'est profond?
Ouais, il fait un peu plus de 2 mètres et quelques, 2,30 mètres de profondeur. Il y a une circonférence environ d'un bon mètre de diamètre. Et donc il a une capacité de 1,7 mètre cube de bois.
C'est un peu l'équivalent d'un four de boulanger.
Ouais, il y a le principe du feu, mais non. Ce four, il est composé avec deux cuves, une à l'intérieur de l'autre. Et donc dans la première, c'est le foyer de combustion. Et donc c'est là où il y a le feu. dans la cuve autoclave qui est à son centre, dans lequel on a mis les branches de pin, mais ça peut être n'importe quelle matière végétale. Cette cuve va être fermée le plus hermétiquement possible. Le charbon ne touche pas le feu. On va déshydrater la matière, ensuite on va aller rentrer dans les lignines, etc. Et après, aller sortir les essences, les goudrons et les cendres pour avoir plus que la structure qui va nous intéresser. Je mets des morceaux de buis, des petits bâtonnets.
Je vais les ranger au bout de mon four.
Qui vont devenir en compte des petits bâtonnets de confort pour améliorer l'eau potable. Ça a un pouvoir d'absorption, c'est ça le charbon. Par sa charge électrique négative, il va attirer les ions plus et la plupart des nitrates. Et donc ça va les emprisonner, les piéger. Et donc ils ne seront pas dans ton l'eau que tu vas boire.
Voilà. Finir de ranger
un petit bâton. Pousser un peu plus que je vais mettre plusieurs choses. Après, on va quand même faire un feu qui va durer au moins 8-12 heures. Et quand c'est le départ du feu qu'on va alimenter pour une première partie. Et puis ensuite, il va continuer avec les gaz qu'on va récupérer des végétaux. C'est lui qui va nourrir le feu. Le feu est un élément vivant qui demande un apprivoisement et une connaissance assez importante.
Ça reste quand même la base du charbonnage ?
C'est à la base du charbonnage. J'essaie de le faire prendre correctement. En plus, on sent que le vent se lève. Le foyer est très grand là, donc il fait plus de 2,50 m. Donc voilà, là j'ai la tête dedans. Hein. Je le fais enfumer. Donc là, moi j'aime bien commencer par une étincelle, enfin les choses commencent souvent comme ça. Le charbonnier est maître chez lui. Donc j'aime bien moi aussi, voilà, ça me permet de, ça y est, d'être à la maison, ma nouvelle maison. La charbonnière, c'est aussi la place du feu. Et ça, c'est quand on parle de la clairière, ça devient une place. C'est la réunion, quoi. C'est le feu, c'est le foyer, c'est le centre. Voilà, et ben je vais faire un petit coup de nettoyage. Faut pas croire que les charbonniers sont noirs pour rien. Charbonner, c'est aussi d'annihiler les temps, le présent, le passé, le futur. Et en même temps, dans l'action, c'est que eh bien, ça va être de rester dans le vivant. L'idée, c'est pas de faire de la cendre.
Donc une fois qu'on a charbonné ce végétal, donc là qui est du bois, le végétal devient
charbon. Mais le charbon, il est composé à 96, voire 98% de carbone pur. Et le carbone, en compte, il est dans l'air, il est dans le feu, il est dans l'eau, il est dans notre corps. Il fait vraiment partie du vivant. Le charbon, il faut imaginer ça comme des millions de pores, de petits tunnels, et c'est ce qu'on va nettoyer. Donc on va avoir une fumée blanche toute petite, puis après un énorme nuage blanc, donc ça met toute l'eau. On va enlever. Donc ça va être ce principe de déshydratation qui commence. Là on peut le voir avec ces fameuses fumées blanches qui sont sur la première cheminée. Et là c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau. Cette fumée va devenir de plus en plus dense et donc on va avoir après un énorme nuage blanc. Donc ça va devenir une locomotive à la Miyazaki un petit peu. Et puis à partir d'un moment, à un certain degré, c'est la matière qui se décompose, tu vois, la cellulose, la lignine, etc. Et on arrive sur des gaz. Et là, on va les recycler, on va fermer des vannes, etc. Et on va les réinjecter dans le foyer de combustion qui vont nous permettre de rendre la machine autonome. Et donc, on va brûler les gaz. Et puis après, il va y avoir de plus en plus de gaz, beaucoup. Et donc, à un moment donné, on doit les extraire de la machine parce que sinon, la machine va exploser. 100 kg de bois ou 100 kg de feuilles, hein, c'est 183 kg de CO2 qui émettent dans l'atmosphère. Donc là, quand on va dire qu'il y a plus d'une tonne de bois, c'est quasiment 2000 kg, c'est 1830 kg d'équivalent CO2. Si on brûle plus de 93% des gaz, on a un bilan incroyable carbone. On va émettre, je sais pas, 50 kg à la place de 2000 kg.
Voilà. Est-ce que ça a encore du sens de faire du charbon aujourd'hui ?
Plus que jamais. Non seulement on peut travailler aujourd'hui les résidus, la plupart, beaucoup d'agriculteurs, etc., aujourd'hui essaient de voir comment recycler leurs résidus de paille, qui vont servir comme amendement.
Quand on pense charbon, de suite, ou souvent on pense pollution ?
Charbonner à l'époque où, en compte, il faut décarboner la planète, ça paraît fou. L'intérêt, il est énorme parce que non seulement on a des quantités astronomiques de déchets végétaux, ce qu'on dit déchets, hein, je ne sais plus en termes de centaines de mètres cubes, hein, ne serait-ce que dans le Trièves, donc dans le Vercors, dû aux coupes, à l'exploitation du bois, donc de la matière, on en a. On en a et elle est là. Évidemment, ça va être une question d'échelle. Et c'est là où c'est fragile et parce que tout de suite, on va en faire une exploitation. On veut trouver en compte un système rentable, bénéfique. Et quand on voit ben, là l'échelle de cette... moi j'aime bien, parce que pour moi c'est ma petite centrale, quoi. C'est pas énorme, hein. C'est deux remorques, une roulotte, une petite charbonnière. Voilà, c'est un réel intérêt. Quand on arrive, on s'appelle.
Charbonnier !
Je suis Sabine Camprodon, chargée de production au sein de l'association Culture Ailleurs, charbonnière. Je suis charbonnière, mais pas tout à fait de la même façon que Sébastien. Lui, il est vraiment dans le faire, dans la technique. Je suis dans le faire, mais dans l'administratif, moi. C'est-à-dire plus pour monter les projets, plus fous les uns que les autres. Mais oui, je suis charbonnière aussi. On est parti d'une histoire qu'on a débuté en 2009 autour de ce projet. Quoi. En fait, on s'est nourri du contexte local. On a regardé un peu ce qui se passait. Et c'est vrai que l'histoire des charbonniers dans le Vercors, des charbonniers en forêt, bah, ça nous a animés, quoi, ça nous a intéressés. En fait, c'était un métier qui était fatigant, usant. Peu de Français voulaient faire ce travail-là. Donc c'était plutôt des Italiens qui venaient dans nos forêts pour faire ce travail difficile. Ils venaient en famille, ils habitaient la forêt et ils surveillaient une charbonnière en l'ancienne. Si vous voulez, c'est comme un... C'est comme un bébé en fait, il faut le surveiller jour et nuit, faire attention que ça ne brûle pas, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Là on parle vraiment de charbonnage, hein, et pas de, on n'utilise pas la cendre ou quoi que ce soit. Il faut faire attention d'avoir de la matière, et puis ça servait pour les grandes entreprises, pour c'était de l'énergie en fait, c'était avec ça qui faisait fonctionner toutes leurs machines. Donc il y en avait énormément, mais même encore aujourd'hui, hein, si on cherche un peu et qu'on gratte, il y aura toujours du noir au sol sur des décennies entières et sur plusieurs départements. C'est vrai qu'ici, il y a quand même cette volonté de garder en mémoire ça. À travers Corps travaille bien là-dessus aussi. Il y a une véritable histoire autour du charbonnage dans le Vercors.
Et quel est le sens d'être charbonnier dans le Vercors ?
Il y a un lien fort, mais c'est un lien, c'est un peu bizarre de dire ça, qui est une manière immatérielle, puisque c'est qu'un souvenir. Ah oui, ces Italiens qui juraient, qui étaient tout noirs, qui venaient de temps en temps au bal. Ces traces qu'on peut reconnaître dans le Vercors, dans les forêts, parce qu'ici il y avait une charbonnière, parce qu'il y a une plateforme. Si on gratte un petit peu dans la terre, on s'aperçoit qu'il y a du noir dessous. Les cabanes ont disparu. C'est une renaissance. C'est la renaissance des charbonniers.
On a acquis ce four en Angleterre où on a touché un volet qui était un peu plus environnemental, on va dire, parce qu'en fait, le charbon, on le connaît sur le charbon de barbecue, un peu la carte de visite. Mais le charbon a bien d'autres vertus que faire des grillades, si vous voulez, sur un feu. Mais c'est un vrai amendement pour les sols et notamment aussi pour l'eau, un vrai filtre à eau. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a commencé à travailler un peu plus avec ce four à pyrolyse, où on a mené un projet qui mêle plutôt, on va dire, une fusion entre l'art et l'environnement, et comment on amène le public à réfléchir en fait sur le charbon et à comprendre en fait toutes les vertus qu'il a au-delà de celles qu'on connaît le plus, le charbon de barbecue. Voilà, on a l'impression d'être bien dans notre environnement et d'être juste dans ce qu'on fait.
Voilà, là on est 359 degrés. Bon, ben, ça se passe, on va aller chercher du bois pour les prochaines charbonnières. Pour le coup, je vais ramasser ce qui est transportable, sans découper, sans utiliser d'outils. Aussi, j'ai une boîte. Je vais prendre mes gants parce que, vu qu'on est dans du pain, il y a beaucoup d'épines.
Et est-ce qu'on peut charbonner, donc fabriquer du charbon avec n'importe quelle essence d'arbre ?
Le charbon est fait à partir de tous les végétaux. Donc ça peut être effectivement le bois, les branches, les feuilles, les fruits, le lichen, donc, parce qu'on est en forêt, des épines de pin, mais il peut être fait à base d'herbes, de résidus agricoles, enfin, des excréments, des chevaux, des bousses de vache. Le charbon, quand il peut être fait à partir de tout ce qui va être végétal. Donc chaque essence a une particularité. C'est intéressant là, sur un territoire de pouvoir justement charbonner plein d'essences différentes, de voir des tests aussi scientifiques, et donc c'est ce qu'on fait. C'est un thermomètre, mais c'est un peu comme une horloge.
Et là, ça va prendre combien de temps entre l'allumage du feu et la fabrication ?
24 heures à peu près. Donc il est midi. Donc normalement, on devrait l'ouvrir demain à midi. Eh bien, 24 heures après l'allumage, eh bien donc nous sommes à l'heure du cavage. Donc l'ouverture du four.
C'est la grande ouverture. Un peu comme une révélation. Une révélation d'une image ou... comme la photo, voir si la magie a opéré. On a hâte. Et puis, que tout est réussi parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il va falloir ouvrir la porte de manière méthodique. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, tout se passe comme prévu. Il y a pas d'écrou et de moulons qu'on foirait. Espérons que ça continue. Et bien voilà. Du charbon. Le tas, évidemment, s'est affaissé, hein, puisque ça a réduit. Mais tout est là, en fossile. Il y a des couleurs bleuâtres, très belles. Ça, c'est des bâtonnets de buis qui vont servir à améliorer l'eau potable. C'est hyper léger. Parce que donc là, il y a quasiment 30-50 mètres cubes hein, de charbon. Donc, y a de quoi sortir, donc caver. Alors là, c'est de la nacre. Et en plus, c'est très doux quand on touche ça. Et c'est à la fois métallique. Enfin, on a du mal à se demander si c'est du silex ou. C'est très lisse. C'est très beau. ça casse comme on entend, ça pétille, hein, comme du verre, ça tombe un petit peu. Alors là, le pain, il fait beaucoup, beaucoup d'écorce, donc ça, je m'en servirai pour de l'amendement. Là, je l'écrase hyper facilement parce que c'est très tendre aussi, le pain. Donc là, je suis en train de le peler. J'ai presque envie de le manger. Donc je touche la matière, voilà. Ça c'est juste l'écorce de pain. Oh. Alors là, c'est complètement brillant. On dirait presque de l'aluminium. C'est une branche, hein, un morceau de pain. Son écorce, elle est. Elle brille de mille feux. Ben, y a même le ciel qui se reflète dedans. Ça devient des pièges. Aujourd'hui, quand je charbonne, parce qu'il y avait des charbonniers, parce que l'histoire du Vercors, elle est liée aux charbonniers. C'est l'histoire de sa forêt, c'est l'histoire de ses hommes, et de ses femmes, et de ses enfants, et c'est cette mémoire qu'on perpétue. Les charbonniers que j'ai rencontrés, les derniers, ils étaient très très émus, parce qu'ils s'imaginaient pas qu'on puisse continuer. Pour eux, c'était mort, c'était fini. En nous parlant, ils avaient la larme aux yeux, là, je commence à l'avoir, parce que c'est très émouvant de se dire que quelque chose disparaît, et là, de perpétuer ce métier, de le rendre innovant, de le rendre vivant, c'est la plus belle des choses qu'il peut avoir sur un territoire, quoi. Ah, tu m'as fait pleurer.
Si vous tendez l'oreille en marchant dans les forêts du Vercors, peut-être entendrez-vous encore le souffle discret des derniers charbonniers. Merci à Sabine, Derek et Sébastien Perroux, les charbonniers humains et non humains. L'air, celui qui porte les ailes du Vercors.
L'air. L'air, c'est le nid des rapaces en général.
A-I-R.
Ah, l'air. C'est un élément assez abstrait, mine de rien.
Avec Louise Picavé, naturaliste.
Et ça nous permet de pouvoir observer des êtres un peu tout aussi abstraits, finalement, qui s'y déplacent, comme le JPAET.
Et Olivier Théillard, photographe.
L'air ailleurs, c'est quelque chose qui... qui comme ça, nous sert à respirer, nous. Mais quand on voit les oiseaux dedans, on se dit que d'un seul coup, c'est un support.
Et c'est source de toute vie, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'air, c'est ça.
L'air, cet élément invisible, est le domaine des oiseaux, et plus particulièrement des rapaces. Parmi eux, le JPAET barbu, majestueux et rare trouve refuge dans le Vercors. Depuis 2022, un couple s'y est installé grâce à un travail de réintroduction patient. Pour comprendre cette présence rare, Louise Picavé et Olivier Théillard explorent aujourd'hui avec nous le ciel et les falaises, à la recherche de ce planeur hors norme.
On est à Val-Croissant, au niveau de l'abbaye, et on est en train de monter sur une piste pour atteindre le lieu d'observation d'une aire de JPAET barbu. Le couple historique du Vercors, les premiers à avoir pondu et amener à l'envol un jeune JPAET sur ce lieu-là depuis 2022. Donc là, on est en train de monter sur une piste au milieu de la forêt, et bientôt ça va s'éclaircir, on va avoir les falaises de Glandas. Alors, c'est des grandes falaises qui font à peu près 200-250 mètres de haut, et il fait beau. Il a plu cette nuit, mais là il fait beau, on a de la chance.
Est-ce que c'est un secret, le lieu où sont situés les nids de JPAET ?
Alors non, c'est pas un secret, mais c'est une zone qui est protégée, sur laquelle on met une ZSM, une zone de sensibilité majeure, où on essaie de réglementer et de limiter les perturbations, donc que ce soit l'escalade, la randonnée, le vol en parapente, en hélicoptère, etc. Voilà.
Olivier, vous êtes accompagné de Louise Picavé, qui est naturaliste. Vous faites souvent des sorties ensemble entre photographe et naturaliste.
Bah, ça nous est arrivé quelques fois. Et alors avec Louise, on a déjà fait une sortie infructueuse.
Ça a été un échec, mais bon, c'était chouette quand même. Bah, je pense qu'on peut s'apporter tous les deux une vision différente.
On peut prendre ou la piste ou le raccourci, c'est comme tu le sens toi.
Raccourci,
oui. Raccourci ? Allez, raccourci. Je viens au moins deux fois par semaine. Alors ça dépend de la période en fait. Tout début, quand on fait la recherche du nid, parce qu'il change d'air chaque année quasiment. Donc là on vient un peu plus souvent. Après, pour rechercher la date de ponte, pareil, on continue à venir. Là maintenant on sait que ça éclot, donc on vient un petit peu moins souvent, mais toujours au moins une fois ou deux par semaine, oui. Bon, après je suis pas tout seul à surveiller ce nid là. On est plusieurs entre bénévoles et gardes du parc.
Ça veut dire quoi surveiller un nid?
Eh bien regarder qu'il n'y ait pas de perturbation, que les oiseaux sont toujours là, ou à couver ou à nourrir, suivant la période. Voilà, vérifier que tout se passe bien. On va être à plus d'un kilomètre, en fait, du nid. Donc, il est visible qu'à la longue vue. Et même à la longue vue, par moments, c'est difficile de voir ce qui se passe dedans. Mais...
Là, je vais sortir la longue vue.
Pour pouvoir arriver à voir l'air et voir si les gypaètes sont bien là. Donc on est face à la grande falaise qui est coupée en deux en son milieu par un passage qui sert à monter sur Glandas. Un gypaète, c'est un vautour. C'est un des quatre vautours qu'on a en France avec le vautour fauve, le vautour moine et le percnoptère. Naturellement, il est blanc et gris ardoise, mais il a la particularité de chercher souvent des bains de boue ferrugineux pour se teindre les plumes, le poitrail blanc en orange. Ils peuvent changer de couleur du jour au lendemain, être très clair et puis d'un seul coup être très foncé, voire cacadois quand ils sentent tout juste du bain. C'est un oiseau magnifique.
Et il a trois cercles dans les yeux, un orange, un rouge et un plus clair qui représente son iris. Donc c'est déjà un regard hyper perçant et très surprenant pour quelqu'un qui n'a jamais vu de gypaète. Il a une petite barbe aussi qui lui vaut son nom, gypaète barbu, hein, une petite barbichette noire. Et il a des grosses pattes plumées jusqu'au-dessus des pattes, ça lui fait un peu des bottes. C'est super joli et une très grande queue en forme de losange quand il vole. On ne peut pas se tromper quand on le voit en vol et qu'on voit cette queue-là, on se dit « Ah ouais, c'est un gypaète, impossible de confondre avec un vautour fauve. » C'est vraiment l'animal qui représente la prestance et la grâce. Il y en a vraiment très peu dans l'arc alpin. C'est un vautour, mais d'un autre côté, c'est pas un vautour comme on pourrait se l'imaginer. Il est vraiment magnifique, il est très très discret. Puis d'un coup, on se fait surprendre en montagne. On entend le vent dans les ailes et en fait, quand on le découvre, quand on se retourne et que c'est un gypaète, c'est toujours une immense joie et une immense surprise et ça reste une rencontre inoubliable. Son envergure, elle est de 2,50 m à 2,80 m. La femelle et le mâle peuvent faire la même taille et le même poids. Poids qui varie entre 5 à 7 kg. Et la longueur du corps, tête-queue, entre 120 et 140 cm. C'est un gros oiseau. J'en vois un.
C'est celui du bas ou celui du haut?
Moi j'ai celui du haut. Attends, j'aime bien celui du haut.
Alors, regarde celui du haut.
Ah, voilà.
J'ai celui du bas dans la forêt, là.
Sa particularité, c'est de manger des os. Il est capable d'avaler des tibias. Hein, donc un tibia de 30-40 cm de long, ça lui fait pas peur. Après, là où ça va poser problème, c'est les os qui sont un gros. Donc dans ce cas-là, il va aller les casser, il va les transporter dans ses serres, et il va les lâcher au-dessus d'un pierrier, au-dessus de grosses caillasses pour le fragmenter, et après descendre le récupérer pour manger les, avaler les morceaux plus petits qu'il arrive à ingérer.
Bah, le cycle du gypaète, il est très très lent. Rien que la maturité sexuelle du gypaète, c'est 7 à 8 ans, donc c'est super tard. Alors les parades nuptiales vont commencer plutôt au mois d'octobre. Ça va être des parades en vol, ça peut être des offrandes aussi aux partenaires, comme des ossements, des morceaux de viande, enfin pas de viande, mais des morceaux de carcasse, hein, tout simplement. Pour nous, c'est pas hyper appétissant, mais pour eux, voilà, ça reste des offrandes. La reproduction commence environ vers le mois de novembre. Suite à ça, une femelle va pondre 1 à 2 œufs. Sur l'aire qu'ils auront aménagé et choisi. Et puis, ces œufs, après 54 jours d'incubation, si les deux poussins naissent, le plus fort va s'occuper du plus jeune et va le sortir du nid, parce que les parents s'occupent en général que d'un seul poussin. Donc la naissance du poussin se calque sur la fonte des neiges et donc sur la profusion, entre guillemets, de carcasses qui ont été emprisonnées par la neige et donc la profusion de nourriture à cette période de l'année pour le gypaète. Donc c'est super intéressant pour eux. Rien n'est fait au hasard dans la nature. Ce poussin va grandir, va rester environ 110 jours, 120 jours au nid avant de s'envoler. Et donc prendra son vol entre le 10 juin et fin août.
Et donc là, on en est où ?
Bah là, on est au tout début. Hein. Le poussin n'est pas bien gros. Enfin voilà, il est hyper vulnérable en fait. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a du stress. On se dit qu'il peut vite être prédaté par le grand corbeau. Après, par les autres vautours, il n'y a pas de risque. Le vautour n'est pas un animal capable de chasser. Mais voilà, il y a beaucoup d'espèces, notamment l'aigle royal aussi, qui peut s'en prendre aux poussins du gypaète assez facilement.
Il y a combien de couples de gypaètes dans le Vercors ?
Alors, il y en a eu deux. Il y en a deux, de toute façon. Mais voilà, on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Mais depuis 2022, il y en a eu un premier et après un deuxième qui s'est installé sur le long terme.
Ouais. Donc là, apparemment, il n'y a personne au nid. Alors en ce moment, c'est un peu régulier parce que le poussin a éclos, enfin l'œuf a éclos, le poussin est né. Et aux dernières observations, ça arrive fréquemment que les adultes ne soient pas là pendant 20-30 minutes. C'est toujours un peu stressant. On se demande toujours si tout va bien, s'il ne va pas y avoir une prédation par un grand corbeau, ce genre de choses. Ou s'il n'y a pas eu un. Si le petit n'est pas mort et que du coup les parents ont abandonné le nid. Quoi. Donc tant qu'on ne voit pas l'adulte revenir sur le nid. Ou pour nourrir, ou pour se poser, on stresse un peu. Quoi. Donc là, on va stresser un petit peu, en attendant de les voir se pointer.
Pourquoi réintroduire le gypaète ?
Alors, il a disparu, c'est une longue histoire. Il a disparu en même temps que plein d'autres espèces. Déjà, à cause de la première loi sur la chasse, en 1870, par là, qui l'a classé comme nuisible. Et donc c'était un peu l'animal à détruire, mais comme le loup, le lynx, voilà, tous ces animaux-là. Et donc il y avait même des primes à la dépouille pour qui ramenait des œufs de gypaète, des gypaètes sur la place du village, etc., aux mairies. Donc c'est allé super rapidement, il y a eu de l'empoisonnement, avec les armes à feu aussi, il y a eu beaucoup de destruction, enfin il y a eu pas mal de techniques diverses et variées. On lui donnait le nom de voleur d'agneaux, voleur d'enfants, il avait une image très dégradée. Il représentait aussi le diable selon l'église, il avait les yeux rouges, il se teignait en rouge dans les bouffées rugineuses. Donc voilà, c'était un oiseau qui avait vraiment une sale image auprès de la population. Donc voilà, il a été détruit à cause principalement de la méconnaissance et puis de la peur infondée, au même titre que beaucoup d'espèces. Et ils ont payé les frais de cette méconnaissance et ils sont revenus, on les a réintroduits premièrement dans le parc national du Mercantour en 1993. Si je ne me trompe pas, 3 individus. Et de là a commencé la campagne de réintroduction dans tout l'arc alpin jusqu'à aujourd'hui. Programme qui a été prévu jusqu'en 2028 pour l'instant. Et son retour est important parce que c'est un animal qui a tout à fait sa place au sein de nos écosystèmes. Il est hyper important pour des raisons sanitaires, c'est le dernier maillon de la chaîne, il nettoie absolument tout, quoi. Il mange les os, donc peu d'animaux sont capables d'ingurgiter des os comme il le fait, et puis de s'en nourrir exclusivement. Mais on se doit de lui rendre cette place, en fait.
Il me semblait voir quelque chose, mais en fait, pas du tout. C'est voilà, une vue de l'esprit. On a plein de vues d'esprit quand on regarde à la longue vue. Surtout quand la luminosité n'est pas terrible, on imagine plein de choses.
Et vous, vous l'aidez comment ?
Ah ben, moi, en l'observant, ben, en le suivant là, en vérifiant que tout se passe bien, en aidant le personnel du parc qui fait le suivi scientifique, voilà, moi je leur donne mes infos qui leur sont utiles. Où est-ce qu'il va se positionner cette année pour faire son nid ? À quelle date il a pondu ? En fait, c'est le fait de les observer qui va nous indiquer la date de ponte. Tant qu'on ne voit pas l'oiseau rester sur le nid, ben, on sait qu'il n'y a pas eu de ponte. À partir du moment où l'oiseau va rester sur le nid toute la journée, ben, on sait qu'il a pondu ou qu'il va pondre ce jour-là ou le lendemain. La date d'éclosion, normalement, il devrait être bagué et balisé cette année pour permettre de suivre ses péripéties une fois qu'il se sera envolé.
Là-bas, ça volait au-dessus du pison, mais je crois que c'est un fauve. Ah non, c'est un aigle. Mais bon, c'est pas lui qui nous intéresse. Enfin, c'est intéressant quand même, mais...
Il a blasé.
Faut pas se disperser. Faut pas se disperser. Restez concentré sur le sujet. Tiens, là-haut.
Il a disparu, là.
Regarde, un jipa qui arrive dans le ciel. Non, c'est un fauve.
Je n'ai pas mort. C'est un oiseau alors qui peut rester géographiquement là où il a été réintroduit, mais la plupart vont quand même aller explorer l'arc alpin, descendre voilà, en Provence et parfois rejoindre les Pyrénées. Mais ce qui est aussi intéressant parce que ça permet de renouveler la génétique du peu de population qu'on a en France à l'heure d'aujourd'hui.
Donc je le cherche ailleurs, voir s'il n'est pas posé... Ils ont quelques petits pitons de prédilection, mais je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas vu. Donc là, je ne sais pas où ils sont.
Alors, le poussin, on ne le voit pas d'ici, parce qu'il est trop petit, on est trop loin. Donc, on sait qu'il est là parce qu'on voit les parents en train de le nourrir. On imagine qu'il est là parce qu'il y a l'adulte qui est en train de couver l'œuf. Après, on sait que l'œuf a éclos parce qu'il y a un changement de position déjà et d'attitude de l'adulte. Hein, qui donc va avoir une attitude de nourrissage. Donc on va le voir, il est venu avec de la nourriture, il va tirer sur les os pour récupérer le maximum de viande, parce qu'au début, le poussin est nourri avec de la viande. Et donc on va voir ce geste de nourrissage sur le poussin. Donc là, on imagine que le poussin est né. Si on voit l'adulte arriver sur le nid, on va voir ce qu'il fait. Et avec un peu de chance, il devrait nourrir son poussin. Mais pour ça, il faut qu'il arrive. Souvent, il revient s'installer là où il est né, sauf s'il a trouvé un partenaire ailleurs. Mais sinon, il va revenir régulièrement là où il est né pour essayer de s'installer. Et c'est ce qui est arrivé ici, parce que les deux couples qu'on a... Mais les deux ont été introduits dans le Vercors, donc à vol d'oiseau à 20 km d'ici, là, de l'autre côté des falaises. Et quand on lâche un oiseau, en général, il revient s'installer là où il a été lâché. Je vois toujours dans le même axe. Ah si, peut-être bien qu'il est en train de nourrir. Ça ressemble quand même pas mal à un nourrissage. Mais par contre, je n'ai pas regardé l'heure. Je note les heures de présence. Il ne faut pas déconner non plus. 11h38. Allez, on va rester positif. On va dire qu'il y a nourrissage. Hein. Donc là, j'ai marqué 11h40. Adulte au nid, pas vu de nourrissage. S'envole, perdu. Retrouve avec un autre adulte en vol. Vol ensemble. Partent vers Roche de Valcroissant. C'est pour indiquer la direction vers laquelle ils sont partis. 11h35, arrivée d'un adulte au nid et qui semble dépioter un os et nourrir. Voilà.
T'as déjà rêvé d'être un jipette ?
Non. Non, non.
Mais des fois, me demander, quand ils volent, ouais, me demander ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent aussi, des fois, c'est idiot. Mais à quoi tu penses, là ?
Il y a une cohabitation aujourd'hui entre les parapentistes et les jipaètes et les autres oiseaux en général. Parce qu'il y a eu un gros travail de sensibilisation qui a été mis en place notamment dès les premières réintroductions, mais d'autant plus depuis la première installation du premier couple en 2022.
Sur une aire de jipaètes, c'est que le parapentiste il va arriver à une grande vitesse. Il va surprendre l'oiseau. Alors il peut surprendre l'adulte qui est au nid en train de couver un œuf, ce qui peut le faire s'envoler. Et à ce moment-là, la prédation qui risque d'y avoir, c'est celle du grand corbeau qui est toujours à l'affût d'un œuf. Quand le parapente passe tout près de l'air, on est toujours à se demander ce qui va se passer, quelle va être la réaction du jipaète. Et on ne peut pas savoir, parce que c'est un oiseau qui est sauvage et sa réaction elle peut être disproportionnée par rapport à ce que nous, on peut ressentir, quoi, on peut imaginer. Il faut être patient. De toute façon, pour observer les jipaètes, il faut être patient. On sait que le meilleur est à venir quand on n'observe rien. C'est qu'au bout d'un moment, on va bien finir par voir quelque chose. Mais punaise, c'est pas possible d'y voir aussi mal. Non, c'est rien du tout. Si, voilà. Voilà. Bah si, c'était lui. Hop, il s'envole. Ah, mais il disparaît pas. Punaise.
Ils sont là tous les deux, donc c'est une bonne nouvelle. Ah voilà, ils volent à côté en plus. Magnifique. En parallèle, l'un au-dessus de l'autre. Trop bien. Tu les as ?
Je vais essayer de les prendre en photo pour essayer de les identifier.
On peut tomber amoureux, quoi, surtout si on s'intéresse à la nature et aux oiseaux. Et en plus, c'est un oiseau qui est rare. Du coup, vu sa réintroduction, il n'y en avait plus dans le Vercors depuis 140-150 ans. Après, le fait que l'homme répare ce qu'il a abîmé, parce qu'en fait, le jipaète, il n'y en avait plus, c'est parce que l'homme l'avait exterminé. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Et que de pouvoir aider un petit peu à ça, c'était chouette, quoi.
Et vous, avez-vous déjà eu envie de survoler le Vercors comme un jipaète ? Certains s'élancent en parapente, pendant que d'autres planent en silence, ailes grandes ouvertes. Là-haut, le ciel se partage, entre humains et non-humains. Le jipaète barbu y revient, lentement, majestueusement. Merci à Louise Picavé et à Olivier Teillard. L'eau, celle qui sculpte le Vercors.
C'est quoi l'eau ?
C'est quoi l'eau ? L'eau, c'est H2O.
Sans eau, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas aussi ce massif qui a été creusé.
Et donc, elle est précieuse et elle a un rôle dans les cycles naturel, géologique de la Terre.
Avec Philippe Streff, hydrogéologue.
Alors le rôle de l'eau dans la formation du Vercors, il est, je dirais, il est majeur.
Et Noémie Castin, monitrice de canyoning.
C'est la source de tout, en fait, l'eau.
L'eau façonne le Vercors depuis des millénaires. Explorons ensemble les mystères géologiques du Vercors pour comprendre comment l'eau a sculpté ce territoire.
C'est elle qui nous relie tous. Cette eau qui s'écoule devant nous... Elle est tombée sous forme de gouttes ou de flocons il y a quelques semaines ou quelques mois. Elle va rejoindre une rivière, la mer, l'océan, elle va s'évaporer.
Il est 9h du matin, le soleil brille déjà au-dessus de la cascade des Écouges, où je retrouve Philippe et Noémie pour plonger dans les temps géologiques du Vercors. Car ici, l'eau raconte la vie et la pierre, gravée dans chaque pli, chaque veine de ce massif.
Le Vercors, il a la forme qu'il a actuellement en partie à cause de son climat, qui est, on va dire, océanique, à tendance montagnard. Il tombe dans le nord Vercors environ 1,50 m d'eau par an, ce qui est à peu près le double qu'à Paris. Donc cette présence d'eau, c'est elle qui façonne le Vercors depuis quelques millions d'années seulement, et elle en a fait un massif spectaculaire.
On va au bord de la rivière, donc la Drevenne. Regardez où vous mettez les pieds, parce que du coup le chemin est un petit peu escarpé pendant quelques minutes. Et quand on est les premiers de la saison certainement à descendre, il y aura peut-être un peu de ronce. Du coup on est dans une forêt de buis, mais c'est des anciens sentiers qui ont été créés pour accéder à la rivière, et des sentiers de pêcheurs et de riverains, quoi. On est sous des falaises qui sont caractéristiques en fait de la géologie locale, donc du calcaire, et donc ça va être des falaises grises, mais avec une particularité que moi je trouve magnifique dans le Vercors, c'est qu'on a des alternances de trois couleurs principales, le gris, le noir et le orange. Donc on approche de la rivière, et ici pour la petite anecdote, on est dans une zone de débordement, donc là on voit des restes en fait de petites flaques. Et on voit des embâcles, donc des tas de bois en fait qui ont été charriés par la rivière. Donc là c'est complètement sec, mais on voit que l'eau elle est pas très très loin due aux pluies. Et en fait cette zone elle s'alimente en eau que quand il y a des grosses pluies en début de printemps, quoi. Et en été elle est complètement asséchée, on s'imagine même pas que la rivière puisse arriver jusque là. Voilà la petite zone de traversée dont je vous parle, c'est profond jusqu'à mi-mollet. Donc je vous invite à remonter les pantalons, et puis après on sera au sec tout le long. Voilà.
Ça va ?
Ça ira, oui. Je vais essayer de garder pied.
Je vous aiderai parce que j'ai les chaussures qui vont dans l'eau, moi, donc s'il y a besoin, je m'en fiche de mouiller les pieds. Par contre, je vais essayer de remonter les pantalons quand même.
Déjà, on est impressionné, je crois, par la hauteur des falaises qui nous surplombent. En fait, ce canyon, c'est un exutoire de l'eau qui tombe sur le massif, sur une partie du massif. L'eau a profité de l'existence d'une faille pour trouver son chemin. Et comme on est dans une roche très dure à cet endroit-là, qui forme les falaises, la faille reste étroite, donc la puissance de l'eau est canalisée, et on a une chute d'eau qui a déplacé des gros blocs qui proviennent de la falaise elle-même, et c'est un endroit très sauvage et qui est intéressant à, même si on ne pratique pas le canyoning, c'est intéressant à regarder déjà, parce que c'est quand même assez rare d'être dans un milieu aussi spectaculaire tout en étant accessible. Comme presque partout dans le Vercors, on est en présence de roches calcaires. Et donc ce sont des roches d'origine marine dans lesquelles on peut trouver parfois des fossiles qui nous rappellent qu'il y a eu un océan ici il y a à peu près 120 millions d'années, c'est-à-dire à l'époque des dinosaures. Lorsque le Vercors est né, ça a été le fruit de l'influence des Alpes qui bougeaient à côté. Et donc le Vercors était soulevé et plissé. Et donc les couches qui se sont déposées horizontalement, maintenant, elles ont une inclinaison d'une 30 ou 40 degrés ici.
Et là, ce qu'on observe, en fait, il y a un bout de roche qui dépasse en fait de la terre et des feuilles de la forêt. Et en fait, on voit bien ces stries, on voit des sortes de lames de roche en fait, qui sont entrecoupées de sable. Et ça fait vraiment des grosses plaques de calcaire. D'ailleurs, elles sont un peu penchées. Il y a certainement dû avoir un plissement ou quelque chose qui a fait bouger la roche. La roche, en fait, elle a vécu à l'époque des dinosaures. Et ce qui est intéressant, quand on regarde les dates en fait, de l'âge des roches tout en haut des Écouges et tout en bas des Écouges, on se rend compte que le haut des Écouges a connu l'extinction des dinosaures. Donc il y a vers 60 millions d'années, si je ne me trompe pas. Et quand on redescend, et en fait, on traverse le Crétacé et on arrive à l'apparition des dinosaures à la fin des Écouges, et on fait une remontée dans le temps en descendant cette rivière.
Le Vercors est un massif calcaire, Le calcaire, c'est une roche sédimentaire qui s'est donc déposée au fond de la mer. On fait remonter l'histoire du Vercors à peu près à la moitié de l'ère secondaire. Il y a environ 120 millions d'années, on est à la fin de ce qu'on appelle le Crétacé inférieur. C'est une époque où il y avait beaucoup de dinosaures sur Terre. Alors pas forcément sur la zone du Vercors, vu que ici c'était la mer, dans un climat beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, mais une mer peu profonde, où la lumière pénètre bien jusqu'au fond. Elle est propice à une vie très active, très abondante, avec des algues, plein d'animaux marins qui vont des coquillages aux crustacés en passant par les poissons. Et en fait, tous ces êtres vivants, que ce soit leurs coquilles, leurs arêtes, pour l'essentiel, ils sont constitués de calcium. Ce calcium, quand ces animaux meurent, se dépose au fond de la mer. Et au fil des siècles, des millénaires, cette accumulation de débris de calcium vont se transformer en calcite, qui va constituer la majeure partie du rocher calcaire que l'on voit aujourd'hui. On va dire que le Vercors, des fois on emploie à tort un peu de dire que c'est un immense gruyère. Quand j'encadre des Suisses, ils me rappellent que le gruyère, il n'y a pas de trou dans le gruyère. Enfin, peu importe cette image de fromage, mais c'est vrai que le Vercors, il est parcouru par plein de galeries souterraines, plus ou moins pénétrables, plus ou moins grandes. Et ces galeries résultent du passage de l'eau et de l'érosion du calcaire. L'eau peut dissoudre le calcaire de façon très lente. Le calcaire a été bousculé par la naissance des Alpes il y a 40 millions d'années, et surtout les 5 derniers millions d'années. Et à cette occasion, la roche calcaire s'est fracturée, s'est plissée, donc elle est pleine de fissures et plus ou moins grandes. Et donc c'est des endroits par lesquels l'eau peut s'infiltrer. C'est une des raisons pour laquelle il y a quand même très peu de rivières sur le Vercors, alors qu'il pleut plus que dans beaucoup d'autres régions. Si on parle des gorges de la Bourne, qui est donc la rivière principale qui draine le massif du Vercors. Cette rivière, si on était venu il y a 300-400 000 ans, il n'y avait pas du tout ces gorges, ni ces parties profondes. Et en fait, quand l'eau s'écoule sur une roche dure, le principal facteur d'érosion, c'est la gravité, c'est-à-dire c'est le poids même de l'eau. Et donc la vitesse d'approfondissement de la vallée par l'eau dans le Vercors, dans du calcaire, peut atteindre 5 à 10 cm par siècle.
C'est un processus qui est hyper lent, puisque même si on peut voir de l'érosion en fait, à vue d'homme, puisqu'à chaque crue en fait, on peut voir les matériaux qui bougent littéralement, des gros blocs quand il y a des grosses crues ou juste des graviers. Mais la forme du canyon, la largeur du canyon, par exemple, ça a pris des milliers, voire des millions d'années. Donc je pense que dans 100 ans, 200 ans, il n'y aura pas grand-chose qui aura bougé, en tout cas dans certains des canyons. Mais ça dépend pas mal du débit aussi. Il y a des canyons où ça bouge beaucoup et où il y a énormément d'érosion avec des blocs qui se déplacent. Donc elle est plus ou moins lente finalement, cette évolution. Observe à distance en fait une résurgence et une source en fait qui sort de la terre. Et en fait, comme c'est une source qui coule de manière beaucoup moins importante que le lit de la rivière, en fait on observe la formation de ce qu'on appelle le tuf. C'est un dépôt calcaire qui est amené par l'eau qui est riche en fait en CO2 puisqu'elle a traversé la terre et elle a accumulé du CO2. Et en fait, quand elle sort, et ben il y a un dégazage qui fait que le calcaire qui avait été dissous par CO2 va se redéposer. Et souvent on observe des formations de mousse en fait, qui font des cathédrales géologiques qui se recouvrent de calcaire petit à petit. Les mousses vont se figer dans le calcaire et d'autres mousses vont pousser par-dessus. Et au fur et à mesure, eh ben, on observe des formes qui peuvent en plus changer au fur et à mesure de l'écoulement de l'eau. Et ça peut être très très rapide. Au cours de l'année, on peut voir des changements. Voilà.
Du côté des grottes de Choranche, où il y a plusieurs résurgences, on a calculé que le dépôt de calcaire était de 3 tonnes par jour.
Je
suis venue à la géologie finalement très récemment. J'ai fait des études de biologie et la géologie, comme beaucoup d'entre nous, je voyais ça comme une activité un peu poussiéreuse et ça m'intéressait pas tant que ça. Et j'ai été bien bête de penser ça, voilà, parce que depuis que je pratique le canyoning, justement, je me suis posé ces questions de pourquoi cette roche, elle était comme ça, pourquoi elle avait cette forme-là. Et aujourd'hui, en fait, je trouve ça merveilleux de connaître tout ça et de voir tout ce que la roche, en fait, peut nous dire. Et moi, j'adore des fois lever les yeux au ciel et regarder 10 mètres plus haut les anciennes traces de la rivière et me dire, oh là là, j'aurais trop aimé être là à cette époque et voir quelle forme avait la rivière. Et voilà, et ça, c'est grâce à la géologie qu'on a toutes ces informations. On voit des fois des plissures, on voit des stries qui nous donnent, qui nous illustrent en fait ce que la roche elle a subi comme pression, comme basculement parfois. Et puis on trouve des fossiles aussi dans les canyons et dans les rivières. Et du coup, c'est super intéressant de voir ce qui vivait là en fait bien avant notre existence. Moi, ce qui me passionne dans le canyoning, outre l'aspect technique et l'eau, c'est la diversité de formes, de couleurs, d'obstacles en fait qu'on peut retrouver. Et il y a des gens qui me demandent de comparer un canyon avec un autre, et enfin, je suis incapable de dire quel canyon je préfère, tellement en fait chaque canyon est différent, et ça c'est dû uniquement à sa géologie en fait. Il y a évidemment la végétation qu'on retrouve autour qui va donner un aspect plus ou moins tropical ou ce genre de choses, mais la géologie en fait du canyon, elle va expliquer si le canyon il est étroit, il est sombre, est-ce qu'il est profond. Est-ce que la roche elle est lisse? Est-ce que au contraire il y a pas mal de chutes d'eau? Est-ce qu'elles sont très verticales ou est-ce qu'on est plutôt sur un canyon où on va avoir beaucoup de marches? Est-ce qu'il va y avoir des toboggans lisses? Est-ce que, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Des fois j'ai des questions assez rigolotes en fait de personnes qui n'ont pas du tout idée finalement de la manière dont un canyon peut se former. Et j'ai eu des questions des fois sur des cascades très creusées où on a l'impression qu'elles ont été faites pour l'activité du canyoning, qui me demandent en fait si c'est nous qui avons fabriqué cet obstacle et comment on a fait et voilà. Et du coup, je leur raconte que non, c'est uniquement l'eau qui a creusé cette cascade et qu'on en profite actuellement, mais on n'a absolument pas créé cette cascade ou ce toboggan. Ou voilà. Moi, je pratique le canyoning depuis 7 ans maintenant. Je me suis concentrée d'abord sur l'activité, puis petit à petit, justement, en découvrant des roches complètement différentes d'un massif à l'autre, ou même des formes de canyon complètement différentes, même au sein du Vercors. Et en fait, je me suis intéressée justement à pourquoi ça avait des formes différentes. Et en fait, on peut pas passer à côté, en tout cas quand on s'intéresse vraiment à l'activité, à côté de la roche. Et en fait, la roche, elle va expliquer même plein de choses qui nous concernent vraiment en tant que canyonneurs. C'est la roche, si elle est imperméable, ça veut dire qu'en cas de crue, on va avoir des crues qui sont beaucoup plus importantes qu'une roche qui est perméable où l'eau va s'infiltrer et qui pardonne plus s'il pleut.
Il est difficile d'avoir une idée vraiment de ce que le changement climatique pourra faire sur le Vercors. On en est un peu aux hypothèses, mais c'est vrai que si on a des changements de température plus brusques, on risque d'avoir des roches qui vont être impactées, qui vont devenir donc plus instables, donc probablement une érosion plus active. En fait, une montagne, un massif montagneux, c'est un petit peu comme toute chose sur Terre. Ça, on peut dire que ça naît, ça vit et ça meurt. Aujourd'hui, les mouvements tectoniques sont un petit peu apaisés et c'est l'érosion, notamment par l'eau, qui est en train de ronger le massif calcaire. Et les hydrogéologues ont fait un calcul il y a déjà quelques années pour savoir quelle était la quantité de calcaire qui disparaissait par l'érosion. On est arrivé sur des chiffres de l'ordre de 1 à 2 cm par siècle. Ça fait 10 mètres par 100 000 ans et ça fait 100 mètres en 1 million d'années. Si on avait la chance de vivre beaucoup plus longtemps, on verrait le Vercors diminuer en altitude, simplement par l'action de la pluie ou de la neige qui fond. Et donc il va disparaître peu à peu du paysage pour probablement rester, il ne restera que quelques collines molles dans quelques millions d'années.
Et vous, avez-vous déjà suivi le parcours de l'eau au cœur de la roche? Merci à Philippe Streff et à Noémie Castin. Production, Inspiration Vercors. Prise de son, réalisation et mixage, Alice Roy. Musique, François Joncourt.